Nous prenons la parole dans Galates 2, 20. Galates 2, 20. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Je suis crucifié avec Christ. Donc dans d'autres versions, c'est écrit aussi, je suis mort. Et c'est Jésus maintenant qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. En quelque sorte, je ne vis que pour lui, mais c'est la foi qui m'aide à faire ainsi. Au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous prenons 2 Corinthiens, juste avant, le livre avant, 3, 17 à 18. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Autrement dit, nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme, donc en quelque sorte par son esprit, c'est son esprit qui nous transforme de gloire en gloire en la même image que le Seigneur. Et dans Jean 5, 30, le Seigneur dit, Jean 5, 30. Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc le Seigneur reconnaît qu'il ne fait que ce qu'il voit son Père faire. Dans Jean 5, il y a un autre verset aussi qui le dit. La question d'aujourd'hui, c'est la question de notre identité. Nous avons certainement entendu parler de ce mot identité. Et l'identité, c'est ce qui fait la personne. C'est ce qui fait que tu es toi. Mais le problème, c'est que nous avons pris cette notion-là du monde et nous avons voulu l'adapter dans le Seigneur. Et ça conduit à beaucoup de dégâts, à beaucoup de divisions, à beaucoup de querelles, à beaucoup de déceptions. L'identité, c'est ce que tu penses que toi tu es. C'est ce que les autres disent que tu es. Tu peux te croire fort, intelligent, les autres aussi peuvent le confirmer. Les diplômes sont là aussi pour le confirmer. La richesse est là pour le confirmer. Ton identité, c'est tes désirs, tes projets, ce que tu aimes. Et c'est parfois même ce qu'on t'a prophétisé. Ça devient comme ton identité, ça devient comme si c'était toi maintenant. Et malheureusement, on a pris ça comme objectif. C'est-à-dire mon identité, c'est mon objectif. C'est la fin de toute chose. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette identité? on demande au Seigneur de la rendre meilleure. On demande au Seigneur de la rendre encore plus forte. C'est-à-dire, si on m'a prophétisé que je vais gagner beaucoup d'âmes, eh bien, on prie le Seigneur, aide-moi à gagner beaucoup d'âmes. Si je suis intelligent, on dit au Seigneur, aide-moi à avoir le plus grand diplôme. Si on dit qu'on est fort, on dit au Seigneur, aide-moi à manifester ma force comme il faut. Qu'est-ce qu'on fait? On demande au Seigneur de se mettre à notre service pour notre identité. Nous voulons que le Seigneur accomplisse nos désirs, nos projets, parce qu'on croit qu'on existe par ces projets-là, par ces désirs-là, par ce que les gens disent que nous sommes. Il y en a même qui vont loin jusqu'à dire, Seigneur, utilise mon physique parce que mon physique est agréable. Donc je veux que tu l'utilises. Donc c'est comme si le Seigneur a besoin de ce qui est fort en nous pour que lui manifeste sa force. Le principe de l'identité tel que nous l'avons aujourd'hui, c'est un principe qui détruit. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs prêchent la même chose en disant que ben, tu dois tout faire pour devenir fort. Ils deviennent des entraîneurs des chrétiens pour que les chrétiens deviennent forts dans ce qu'ils sont forts. Or, c'est vraiment le contraire de ce que dit la Bible. Nous venons de lire la parole. L'apôtre Paul dit, « Je suis crucifié avec Christ. Je suis mort. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit. » C'est ça la différence. J'étais peut-être intelligent autrefois, l'apôtre Paul. C'était un grand intellectuel. C'était un grand pharisien. Fils de pharisien, un homme de gloire humainement parlant, venu de la tribu de Benjamin, il avait toutes les qualités. Mais il a dit dans Philippiens 3, nous allons lire ça peut-être, mais nous ne le lisons pas maintenant, il a dit dans Philippiens 3 que tout cela j'ai considéré comme ça comme perte. Il y a une opposition entre notre identité et ce que le Seigneur veut faire avec nous. Dieu ne demande pas d'améliorer notre identité, c'est-à-dire d'améliorer tes connaissances que tu as acquises à l'université pour le servir. Il ne te demande pas de te concentrer sur les prophéties qu'on t'avait données pour le servir. Il ne te demande pas d'exister par les talents qu'il t'a donnés. Il te demande d'exister par lui. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont mal parce qu'ils ne se sentent pas exister, parce que les gens ne les remarquent pas. Parce que l'identité, c'est quoi? L'identité, c'est aussi ce que les autres disent que tu es. Mais si les autres ne disent rien, alors on ne se sent pas exister. Et on croit qu'on est un faux chrétien, un nul. Et justement, le Seigneur a besoin de nuls. Il n'attend que ça pour se manifester. Et tous ceux qui mettent en avant leur identité, même il y en a qui peuvent dire, mais c'est spirituel, on m'a prophétisé cela. Mais je suis pasteur, je dois faire comme un pasteur. Mais bien aimé, le Seigneur ne te dit pas de faire comme un pasteur, il te demande de le laisser agir en toi. Il y a une différence, une grande différence. Et aujourd'hui, l'un de nos grands problèmes, la plupart de nos problèmes viennent du fait que nous avons une identité que nous voulons défendre. On veut défendre quelque chose. J'ai de l'expérience, il faut que je défende mon expérience. Je sais parler, je suis éloquent. Il faut qu'on me mette à la prédication. On ne va pas me mettre, surtout pas au ménage. Je sais bien chanter. Il faut qu'on me laisse chanter. On ne va pas me faire danser. Bien aimé, tu passes ton temps à défendre ton identité. En passant ton temps à défendre ton identité, c'est ça qui va te tuer. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est s'exprimer au travers de toi. La gloire vient du Seigneur. La gloire ne vient pas de notre identité. Même si cette identité est un cadeau de Dieu, je l'avoue. Parce que qui t'a créé physiquement beau, c'est Dieu. Qui t'a donné l'intelligence, c'est Dieu. Qui a permis que tu aies les diplômes, c'est Dieu. Qui a permis que tu sois riche, c'est Dieu. Qui a permis que tu aies les enfants, c'est Dieu. Avec quel cerveau tu peux faire des projets, c'est Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu fasses de cela une fin, une façon de vivre. Ça te tuera parce que ça te rendra égoïste, Ça te rendra jaloux parce que tu auras l'impression que les autres sont meilleurs. Ça te donnera un complexe de supériorité parce que tu croiras être meilleur aux autres. Ça te tuera parce que c'est sans fin. Il y aura toujours des gens qui feront monter les enchères pour aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et tu vas t'épuiser. Il ne veut pas que tu te concentres sur ton identité parce que tu es incapable de l'améliorer. Il ne veut pas que tu sois déçu de toi-même. À un certain moment, tu vas chercher à faire des choses et tu ne pourras pas. Et tu vas être déçu de toi-même. Tu vas devenir négatif. Et Dieu ne veut pas que tu te concentres sur cette identité. Il veut que tu meures par rapport à cette identité. Même si c'est lui qui t'a parlé. D'accord, c'est le projet que Dieu t'a donné. Un jour, il voudra que tu meures par rapport à ce projet même. Que tu considères ce projet que Dieu lui-même t'avait donné comme ayant échoué. Tu dis, bon, Seigneur, après tout, c'est toi qui me l'avais donné. Pourquoi moi je veux me battre comme si c'était mon projet? J'accepte mon échec. Et quand tu vas dire j'accepte mon échec, mais le propriétaire du projet va se manifester. Parce que ce n'est pas toi le propriétaire, c'est lui. Et c'est ce qui nous manque. C'est ce qui fait que nous traînons dans beaucoup de choses. Nous traînons parce que le Seigneur ne s'exprime plus. Le Seigneur n'agit plus parce que nous-mêmes, nous nous battons pour défendre notre identité. Et encouragés par certaines prédications qui nous disent, il faut que tu sois fort, il faut ceci, cela. Mais la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est Dieu qui l'ordonne. Mais ce n'est pas par toi-même. Ce n'est pas par beaucoup de séminaires. Ce n'est pas par beaucoup de prières. Non. Quand les prières sont inspirées de Dieu, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas tes prières qui vont faire que tu t'améliores, que tu sois fort. Il ne faut pas faire de ton identité comme un objectif principal. Il faut la considérer comme un cadeau de Dieu et que Dieu seul doit s'exprimer en toi. C'est très dangereux de se concentrer sur son identité, sur ce que les gens disent, sur nos désirs, sur nos conceptions aussi. Ça fait notre identité. On a des façons de voir. On a classé les meilleures activités à faire pour Dieu. On a classé les meilleures personnes. Et cette façon de voir les choses va nous détruire certainement. Parce que Dieu veut qu'on voit à travers ses yeux. Comme Jésus-Christ a dit, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Si le Père veut guérir, moi je guéris. Si le Père ne veut pas guérir, moi je ne guéris pas non plus. Je ne fais que ce que le Père fait. Je le vois faire et je l'imite. Mais aujourd'hui, nous débattons pour obliger Dieu à faire ce que nous voulons faire. Pour nous sentir exister, pour nous sentir bien. On veut obliger Dieu à nous donner le poste dans l'église qui nous plaît. Parce qu'en ce moment-là, on se sentira exister. On veut obliger Dieu à faire ce qu'il a prophétisé en nous avant le temps. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce que Dieu veut, c'est s'exprimer à travers nous. Dieu veut qu'on soit une expression de Jésus. C'est pourquoi il a dit, restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Les témoins, ce sont ceux-là qui ont vu la personne et qui peuvent, comme exposer la personne aux autres. Donc c'est comme si à travers nous, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 5, nous sommes des ambassadeurs de Christ. C'est comme si Christ parlait à travers nous, pas seulement par la bouche, mais par notre vie. Donc il veut s'exprimer. S'exprimer, ça ne veut pas dire seulement parler le langage humain, par exemple le français. S'exprimer, c'est pouvoir communiquer. On peut communiquer en parlant avec une langue. Les langues qu'on utilise aujourd'hui, mais on peut communiquer par notre vie, on peut communiquer par notre détermination, on peut communiquer par notre joie alors qu'on est dans la souffrance, on peut communiquer de plusieurs manières. Dieu veut communiquer à travers nous, il veut s'exprimer afin que cela ne soit pas nécessaire que quelqu'un retourne 2000 ans avant pour voir Jésus, que les gens demeurent en Jésus rien qu'en nous voyant, regardent Jésus à travers nous. Il veut s'exprimer. C'est ça l'objectif de Dieu. S'exprimer à travers les enfants de Dieu. C'est ça l'objectif. Et si tu ne saisis pas ça, tu tourneras en rond dans la vie chrétienne. J'ai parlé à quelqu'un qui a fait des années pour demander quelque chose à Dieu. Moi, j'ai dit, Dieu te dit aujourd'hui, tu as fait des années pour te demander telle chose, pour lui demander telle chose. Maintenant, c'est l'heure de lui demander ce que lui, il veut de toi. C'est l'heure de lui demander ce que lui veut de toi. Tu as beaucoup demandé pour toi. Maintenant, c'est l'heure de demander pour lui qu'est-ce qu'il veut de toi. C'est important, bien-aimé. Attention à cette histoire d'identité. Ça va nous tuer. Ne cherchons pas à être quelqu'un. Ne cherchons pas à conserver des choses qui font la différence entre nous et quelqu'un d'autre. Il y en a qui, lorsqu'ils voient que quelqu'un d'autre a acheté la même paire de chaussures, ils ne la mettent plus. Hein. Ou bien un pantalon, ou bien un costume. Ils ne mettent plus ça. Ils veulent être eux-mêmes seulement. Donc, ils veulent conserver leur identité. Mais bien-aimé, ça te détruira. Ça te détruira. Dieu veut qu'on exprime Jésus-Christ. C'est tout. Qu'on soit comme invisible. Jésus-Christ seul s'exprime. Il y en a quand ils parlent, ils disent toujours « moi, je, moi, je, moi, je, moi, je, moi, je ». Ce sont des gens qui s'accrochent à leur identité. Le Seigneur veut qu'on dise le Seigneur. Puisque le Seigneur permet telle chose, ben je m'incline. Comme David parlait, puisque le Seigneur m'a confisqué la royauté, vous voulez que je fasse quoi? Puisque le Seigneur permet qu'une telle personne m'injurie, vous voulez que je fasse quoi? C'est le Seigneur qui le permet. Puisque le Seigneur, c'est ça le langage de quelqu'un qui comprend que c'est Jésus qui doit s'exprimer en lui. Ce n'est pas ton identité, ce ne sont pas tes projets, ce ne sont pas tes désirs. Il faut comprendre ça, bien-aimé, même si ces projets, ces désirs viennent de Dieu. Enregistrons cela dans notre tête que ça vient de Dieu et laissons Dieu faire. Ne nous mettons pas à sa place. Du moment qu'on se met à sa place, on veut défendre une identité. On veut défendre quelque chose qui est en nous. Et c'est la destruction qui vient. Parce que Dieu ne sera pas le larbin de quiconque. Il sera le larbin de personne. Il sera l'esclave de personne. Il n'agit qu'en fonction de ses projets à lui. Dans Romains 11, il est écrit, Dieu n'a pas de conseiller. Et il n'en a pas besoin. Il est son propre conseiller. Alors, même si c'est un projet que Dieu lui-même a sorti de sa bouche, il faut enregistrer que c'est Dieu et les laisser faire. Aujourd'hui, le problème de l'identité nous amène à vouloir à tout prix sentir qu'est-ce que moi je fais d'utile. Qu'est-ce que je fais d'utile? Qu'est-ce que je peux faire pour me rendre utile aussi? On est en train de réfléchir à tout moment, qu'est-ce que je fais d'utile? Qu'est-ce que je peux faire pour me rendre utile? C'est le contraire du raisonnement de la Bible, puisque l'apôtre Paul dit, je suis mort. Je suis mort, j'ai été crucifié avec Christ. L'apôtre Paul dit, toutes mes valeurs, pharisiens, issus de la tribu de Benjamin, intellectuels, grand maître de la loi, toutes mes valeurs, je les ai considérées comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon sauveur, pour qui j'ai renoncé à tout. Je veux le laisser lui s'exprimer. Comme Jean-Baptiste a dit, je veux m'effacer et laisser Jésus-Christ s'exprimer. Nous, on veut sortir, dire, mais Dieu m'a appelé, mais oui, j'ai raison. Ma femme, tu dois faire ceci. J'ai raison. Mon mari, tu dois faire ceci. Il faut. C'est moi. C'est le contraire de ce que Jésus dit. C'est le contraire de ce que la Bible dit. La Bible dit, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. C'est le contraire. Et on lutte, on souffre, on tourne en rond dans la vie chrétienne parce qu'on ne veut pas laisser Dieu faire. On veut avoir raison. On veut demander à Dieu de suivre notre logique, de conserver notre identité et de l'améliorer. Et cela ne fait que nous détruire parce qu'on est déçu. Et alors, on tombe dans la jalousie. Quand on regarde l'autre frère ou l'autre sœur qui manifeste quelque chose d'agréable, de glorieux,
on considère que c'est lui. On considère que c'est elle, au lieu de voir en lui, en elle, l'expression du Seigneur. L'expression du Seigneur. Je ne dis pas qu'on ne puisse pas apprécier le fait, dire, oh Seigneur, c'est extraordinaire. On était une fois, on allait faire un concert, le 21 juin, on devait faire le concert à la place de la mairie. Et puis il y a une femme clochard qui est venue là. Elle était tellement sale, elle était assise. Non, elle n'était pas venue, elle était déjà là, elle était assise un peu loin de nous. Je vois une de nos sœurs aller vers elle, lui enlever les chaussures, essuyer ses pieds, lui parler. J'ai dit, Seigneur, je suis nul moi. Effectivement, mais je ne suis pas jaloux. Je suis émerveillé de voir Jésus se manifester à travers notre sœur. J'ai dit, je suis loin de faire ça, mais Jésus est si bon, si amour qui se manifeste à travers notre sœur. Il n'y a pas de jalousie. On est émerveillé de voir Jésus s'exprimer à travers l'un d'entre nous. On ne va pas dire c'est elle qui est extraordinaire. Non, c'est Jésus en elle qui est en train de montrer sa bonté. Et le jour où on voit un de nos frères prêcher comme il faut, on dit Jésus à la parole. Il parle. Le jour où on voit un de nos frères réussir dans les affaires, on dit Dieu contrôle l'argent. On n'a pas besoin de crier. Voilà notre frère qui réussit si facilement parce que Dieu est avec lui. Le jour où on voit un de nos frères convertir en grande quantité des âmes, on dit le Seigneur est bon, il sauve encore aujourd'hui. Voilà, utilise notre frère. Il n'y a pas de jalousie parce qu'on ne cherche pas à défendre une identité personnelle. La jalousie, c'est quand on dit, on a l'impression que l'autre a quelque chose de meilleur que nous. Mais non, la Bible dit que nous sommes le corps du Christ. Le Seigneur s'exprime à travers nous tous. Et chacun est un membre de ce corps et si le Seigneur s'exprime, nous sommes tous dans la joie. Nous sommes dans la joie de voir le Seigneur s'exprimer. Nous sommes dans la joie de voir certains remporter des succès et devenir célèbres. Nous sommes dans la joie puisque c'est le Seigneur qui est glorifié, c'est le Seigneur qui agit à travers eux. Nous ne devons pas chercher à tout prix nous aussi à faire quelque chose pour être acceptés, applaudis, reconnus ou se sentir exister. Nous existons puisque Jésus existe. Il est vivant et nous sommes en lui. Nous n'avons pas besoin de forcer les choses, de forcer une identité personnelle. Reconnaissons que lorsque nos frères et sœurs brillent, c'est Jésus qui brille à travers eux, comme il pourrait briller aussi à travers nous. Et souvent, nous ne regardons pas à ce que Jésus fait à travers nous. Nous voulons seulement regarder à ce qu'il fait chez les autres et considérer que nous sommes nuls. Non, bien-aimés, Jésus ne peut pas faire les mêmes choses avec tout le monde, puisque nous sommes des membres différents des mêmes corps. Avec l'oreille, on ne peut pas faire ce qu'on fait avec l'œil. Ça sera forcément différent, mais ça sera la même gloire. Seulement l'oreille doit se concentrer sur ce qu'on fait pour elle, à travers elle, au lieu de se concentrer sur ce qu'on fait à travers l'œil. Même si c'est l'œil qui remporte le grand succès, mais c'est le succès du même Seigneur, du même cerveau qui est en action, bien-aimé. L'histoire de l'identité personnelle nous conduit à la jalousie, nous conduit à chercher, à travailler pour soi-même et non pas laisser Dieu s'exprimer, connaître les désirs du cœur du Seigneur. C'est très important de revenir à la Bible. Paul dit, je suis mort, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je le laisse vivre, je défends ce que Jésus défend, j'aime ce que Jésus aime. Jésus lui-même dit, je ne fais que ce que le Père fait, ce qu'il fait, moi j'imite. La vie chrétienne, c'est une imitation aveugle de quelqu'un. C'est Jésus. Or, quand on imite quelqu'un, on n'a pas de personnalité. Souvent, c'est ce qu'on dit aux gens qui imitent. Ah, il n'a pas de personnalité. Il n'a pas de personnalité, il imite un tel. Mais il y a une exception. Eh bien, on peut imiter Jésus et être sans personnalité. C'est l'exception. on peut l'imiter. Même si on va paraître comme un nul, mais c'est la voie de la gloire. Imiter Jésus. Regardez, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 3, 17 à 18. Il dit, nous dont le visage est découvert, c'est-à-dire les gens humbles, qui ne se cachent pas, les gens transparents, qui observent Jésus, ils sont transformés en la même image, de gloire en gloire. Tu observes Jésus et tu l'imites, tu seras transformé en la même image, de gloire en gloire. Jésus-Christ, lorsqu'il devait faire les miracles, il en a fait. Lorsqu'il ne devait pas en faire, on lui a demandé de faire un miracle pour prouver qu'il était le Messie. Il a dit, non, je ne le fais pas parce que ce n'est pas le temps. Je ne vais pas faire pour vous faire plaisir. Je fais ce que le Père me demande de faire. Ce que je le vois faire, je le fais. Aujourd'hui, nous voulons produire les mêmes choses à tout moment. Or, il y a des temps pour tout. Dieu nous exhorte aujourd'hui à revenir à lui, à comprendre que c'est lui qui doit s'exprimer. Ne cherchons pas des fois une identité personnelle. Ça nous conduira à la mort. Soyons dans l'unité en tant que chrétiens, en considérant que ce que le Seigneur fait avec les uns et les autres, c'est pour nous tous, puisque nous sommes dans le même corps. Et c'est la gloire. La gloire revient à Dieu seul. Le problème de l'identité personnelle nous poussera à obliger le Seigneur à satisfaire nos désirs, nos goûts, nos projets, et le Seigneur nous amènera parfois, et si on est têtu, souvent à l'échec dans ses désirs, ses projets, dans ses problèmes de talent, pour qu'on arrête à penser à nous, pour qu'on arrête à tomber dans le piège de l'identité personnelle pour le laisser s'exprimer à travers nous. Il le fera. Il bloquera beaucoup de choses. Il conduira à des échecs, même des choses que lui-même a données ou prophétisées. Il conduira à des blocages. Tu vas travailler pour quelque chose, tu vas échouer. Parce que Dieu voit bien que ton identité commence à être cette chose-là. Ton identité commence à être cette chose-là. Alors que c'est la mission même de Dieu. Mais s'il voit que la mission qu'il t'a donnée commence à prendre sa place, ça devient donc ton identité, ça devient toi, il va te bloquer. S'il voit que l'argent qu'il t'a donné, le travail qu'il t'a donné commence à prendre sa place, commence à devenir un instrument de chute pour toi, il va te bloquer. Mais si Dieu ne te bloque plus, alors ça veut dire qu'il t'a sorti du rayon de ses enfants. Parce que la Bible dit, Dieu châtie ce qu'il aime. Et s'il ne le fait plus, s'il ne t'arrête plus, ça veut dire qu'il veut que tu te perdes comme il faut, afin que tu te rendes compte de ton erreur et que tu reviennes plus tard. Mais ça, c'est dangereux. Autant accepter les blocages, les difficultés que le Seigneur met pour nous réveiller, pour nous ramener à lui. Bien-aimés, ne cherchons pas à défendre nos talents. Ne cherchons pas à défendre notre identité. Ne cherchons pas. Cherchons à vivre Christ. Ne cherchons pas à défendre notre territoire. Ne cherchons pas. Laissons Jésus-Christ s'exprimer. Il nous dira ce qu'il y a à faire. Posons-nous la question, qu'est-ce qu'il voudrait que je fasse, le Seigneur? Je suis son véhicule, c'est lui le chauffeur. C'est lui qui décide. Et lorsqu'on veut défendre son territoire au travail, on veut défendre son territoire, aller dans l'église, dans la famille, on veut défendre son territoire, le Seigneur te laisse défendre. On veut défendre sa jeunesse, défendre sa beauté, défendre sa richesse. Le Seigneur te dit, ben, je te laisse défendre ce qui est à toi. Mais moi, je sors de cela. Je vais aller vers ceux qui veulent que je m'exprime dans leur vie. C'est important. Bien-aimés, aujourd'hui beaucoup sont mal et en colère vis-à-vis de Dieu parce qu'ils estiment qu'ils sont les mal-aimés, ils ont eu une mauvaise famille, ils ont eu des mauvais amis, des mauvais professeurs. Dieu te dit, alors tu es le bien-aimé parce que tu as, toi, l'occasion de laisser Jésus s'exprimer totalement en toi. Parce que tu n'as rien. Tu as été déçu par ta famille. Tu as été déçu par les amis. Tu as été déçu à l'école. Tu as été déçu partout. Donc tu n'as rien. Donc tu es bien positionné pour que Dieu s'exprime totalement. Mais qu'est-ce que le diable dit? Le diable, il te dit, tu as été déçu par ta famille. Tu as été déçu à l'école. Même au foyer, on t'a déconsidéré. Alors, ce monde est mauvais. Et Dieu les a laissés faire. Dieu ne t'aime pas. C'est faux. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique à la croix pour toi. Mais seulement, si tu crois, tu vas expérimenter cela. Que vraiment Jésus-Christ est mort pour toi. Ton problème, c'est que puisqu'on dit qu'il est mort pour tous les hommes, ça te gêne, tu voudrais qu'il meure pour toi. Mais Dieu te dit, oui, c'est pour toi qu'il est mort. Parce que même si tu serais seul sur la terre, il serait mort quand même pour toi. Il n'est pas mort parce qu'il y avait eu des milliards d'humains ou des millions. Il est mort pour un homme. Mais comme il y avait plusieurs hommes, il est mort pour tous. Il est mort pour toi. C'est la preuve de son amour. N'écoute pas la voix du diable qui te dit qu'on t'a déconsidéré, on t'a négligé, on t'a battu, on t'a violé. N'écoute pas cette voix-là. Écoute la voix qui te dit, tu es dans la bonne position pour bénéficier du grand amour de Dieu. Dans la bonne position. Comme j'ai l'habitude de dire, aux urgences, on prend les cas les plus graves en premier. Si tu vas là-bas avec une égratignure au mollet, on va pas te prendre. On va te dire, va acheter la bétadine à la pharmacie, tu peux te soigner. Mais si tu vas là-bas avec un problème de crise cardiaque, tu es reçu automatiquement, sans même remplir le formulaire. Automatiquement. Alors, si tu as été négligé, battu, rejeté, donc tu es bien positionné pour être accepté dans les bras de Dieu, pour le recevoir. Si tu as été orphelin, tu es bien positionné pour comprendre que Dieu est père. Parce que les gens qui ont leur papa physique ont du mal à voir Dieu totalement comme père. Mais toi, tu peux le voir puisque tu n'en as pas. Au lieu que ce soit un sujet de colère, de déception, que ce soit un sujet de force, que tu te dises, ah, moi j'ai l'opportunité de vivre vraiment la paternité de Dieu. Dieu amènera nos projets à l'échec. C'est pourquoi beaucoup cherchent une famille lorsqu'ils ont des déceptions par rapport aux humains. Ils retombent dans la première dépression en disant, oui, mais de toute façon, même à l'église, les gens ne m'acceptent pas. Le Seigneur permet ces échecs-là pour que tu te concentres sur lui, sur lui-même. Il veut que tu te concentres sur lui. Il peut même faire que quelqu'un qui est bon te déplaise pour que tu ne t'accroches pas à lui, afin que tu t'accroches à Dieu seul. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des remplacements, ce qu'on n'a pas eu. On veut les avoir ça. On n'a pas eu des parents, on veut en avoir. On n'a pas eu des enfants, on veut en avoir. Pourtant, Dieu a promis, ceux qui n'ont pas eu toutes ces choses, il leur donnera. Alors, on n'a qu'à attendre et à laisser Dieu s'exprimer. On n'a pas à précipiter les choses et chercher des remplacements humains, bien-aimés. C'est clair. Laissons Dieu s'exprimer. Et Dieu permettra beaucoup d'échecs. Hein? Beaucoup d'échecs. Mais ce sont des bons échecs. Parce que ça nous réveille. Ça nous fait comprendre que nous avons commencé à défendre notre identité au lieu de laisser Dieu faire. On a voulu défendre notre identité. C'est comme ça, beaucoup même, en se convertissant, ils se sont dit, oui, Dieu peut me toucher dans tout, mais qu'il me laisse telle partie de liberté, qu'il me laisse telle autre partie de liberté. Bien-aimé, ces parties-là que tu réclames pour toi, pour défendre ton précaré, défendre ton territoire, défendre ton identité, ces parties-là seront l'occasion de ta chute, un jour ou l'autre. Le Seigneur est parti même jusqu'à demander à Abraham de tuer son enfant. De tuer son enfant. Or, Dieu ne faisait pas faire des sacrifices d'animaux, plutôt d'humains. Mais il demande à Abraham de tuer son enfant. Parce que l'enfant d'Abraham avait pris peut-être une trop grande importance et Dieu ne voulait pas qu'Abraham son identité se fonde sur cet enfant-là, mais sur l'Éternel, sur Yahvé, qui a donné l'enfant. Et Abraham a passé l'épreuve. Il a compris. C'est pourquoi il a été appelé le père de la foi. Et nous devons suivre l'exemple. Dieu va tuer l'Isaac que tu tiens fort. Ta personnalité, ta façon de voir, tes conceptions, il va te demander un jour de les tuer. Parce que ça a pris plus d'importance que Dieu lui-même. C'est pourquoi il y a trop de sectes. Parce qu'à un certain moment, l'homme prend quelques versets bibliques, il en fait son Dieu. Il prend quelques versets bibliques, il dit que ce sont ces versets. Mais non, la Bible n'a pas que 10 versets ou 15 versets que tu considères importants. La Bible, c'est 66 livres qui ont la même importance. Alors quand tu prends quelques versets, tu les considères les plus importants, eh bien tu vas faire une secte. Parce que tu ne vas vouloir que tout tourne autour de ta conception à toi. Nous devons tuer tous ces Isaac qui empêchent que le Seigneur s'exprime totalement en nous. Et lui-même va permettre ces échecs. Et ces échecs, bien-aimés, sont salutaires parce que ça amène l'action de Dieu dans notre vie. Si nous voulons, bien-aimés, vivre la gloire de Dieu, je vais donner quelques conseils. Nous devons considérer nos forces naturelles ou acquises comme des faiblesses et des obstacles. C'est-à-dire, si tu as un bac plus 12, tu dois considérer ça comme une faiblesse, comme un échec. Si tu mesures 2,10 m, tu dois considérer ça comme un obstacle. D'ailleurs, pour franchir certaines portes physiquement, c'est difficile. Tu dois considérer ça comme un obstacle. Si tu as de très, très, très gros muscles, considère cela comme un obstacle. Tout ce qui peut faire ta force, ta beauté, ton intelligence, l'argent, tout ce qui fait que tu es quelqu'un, c'est un obstacle pour Dieu. Parce que quand il va agir avec toi, tu vas dire, de toute façon, depuis longtemps, j'ai toujours été intelligent. Dieu n'a fait que mais prendre mon intelligence et s'en servir. Comme si Dieu, lui, n'a pas de capacité. Il a besoin de ta petite intelligence qui va mourir dans 50 ans. Bien-aimé. Non! Tu dois considérer cela comme perte. Il y a des gens qui disent, mais oui, mais attends, je n'ai pas fait 10 ans d'études pour rien. Hein? Oui, oui, pour rien. Tu as fait ça pour rien, pour que Dieu te montre que c'est rien et que c'est lui qui est grand. C'est la vérité, bien-aimé. Je suis le premier dans ça. J'ai fait des études de mathématiques, mais pour rien. Juste pour que Dieu montre qu'il a du prix à mes yeux et que je suis capable de mettre ça de côté pour le suivre. C'est tout. Ça, c'est sa gloire. Tout ce que tu peux considérer comme force, et que tu cherches à défendre. Vous savez comment on remarque ça? On remarque ça dans les petites discussions, dans les petits débats, dans les petites conversations. On va remarquer que le frère, il défend tel domaine, il défend, c'est son domaine, il veut défendre qu'il est fort dans ça, il veut défendre les costumes, il veut défendre, la physique. Il veut. On sent que la personne, il veut défendre son domaine. Il y en a qui disent, au bon vieux temps, je l'aurais fait quelque chose là. Donc, il veut dire par là, il faut savoir que je suis quand même fort. Hein? Ben oui. Puisque le passé, c'est fini. Si tu commences à dire, avant, je l'aurais frappé. Mais oui, mais donc, tu veux dire par là, donc avant, il faut que vous sachiez que j'étais fort. Tu veux défendre encore ça. Tu veux défendre ça. L'apôtre Paul a dit, j'ai considéré ça comme perte. Tout ce que tu vois en toi, comme des forces, des talents, des qualités naturelles ou acquises. Je dis bien même spirituelles. Même ta capacité à prier longtemps, tu dois le considérer comme une faiblesse. Même ta capacité à bien prêcher, tu dois considérer ça comme une faiblesse. Parce que si tu en fais une identité, tu en fais quelque chose à toi, à défendre, ça te tuera un jour. Mais si tu le reçois comme un cadeau de Dieu, oh là tu es tranquille. Tu es mort, c'est Dieu qui s'exprime en toi. C'est ça la réalité, bien-aimé. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, c'est comme ça que nous devons procéder. L'apôtre Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais voilà ce que j'ai. Je sens que Jésus veut te guérir. Et voilà ce que j'ai, je te le dis au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le paralytique s'est levé, il a marché. Considérons, bien-aimé, nos avantages comme des faiblesses. Tu es homme au milieu de femmes, considère ta force physique comme étant un obstacle, une faiblesse. Ne cherche pas à affirmer que tu es homme. Laisse Dieu affirmer que tu es homme. C'est Dieu lui-même qui fera cette différence-là. Toi, comporte-toi tel que Dieu veut que tu te comportes. Et c'est Dieu qui montrera aux femmes qui sont autour de toi que tu es homme, qu'elles doivent te laisser la place. Ne cherche pas à t'imposer par la parole, en disant, en parlant, en martelant le fait que tu es homme. Non. Comporte-toi comme Dieu veut que les hommes se comportent. Et Dieu s'occupera de parler à ta place, d'agir à ta place. Tout ce que tu as comme force, bien-aimé, considère-le comme une faiblesse. Et c'est pourquoi beaucoup de gens qui se disent, « Pasteur, moi je me sens vraiment zéro. » Moi j'ai dit, donc c'est bien, puisque Dieu cherche des gens comme toi. 1 Corinthiens 1, 27, il le dit, nous allons lire. 1 Corinthiens 1. À partir du verset 26, considérez frères, on peut aller même au verset 25, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez frères comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. C'est ça le but. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Est-ce à dire que Dieu ne choisira pas les nobles? Si, il peut choisir les nobles. Mais que ce noble-là commence par reconnaître que sa noblesse est une faiblesse, est une saleté. Là, Dieu peut choisir ce noble-là. Est-ce que Dieu ne peut-il pas choisir des rois? Il le veut. Mais ce roi-là doit reconnaître que sa royauté est rien du tout comme David le reconnaissait. Et à tel point qu'il a dansé mal habillé, il a dansé plus que les vrais danseurs professionnels. Il s'est rabaissé devant tout le monde parce qu'il reconnaissait que son titre de royauté ne valait rien devant Dieu. Et là, Dieu peut utiliser de telles personnes. Qu'est-ce qui empêche que Dieu t'utilise? Parce que tu veux qu'il passe dans les domaines où toi tu te sens fort. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Tu veux qu'il passe dans les domaines où toi tu te sens fort. Si tu te sens fort physiquement, je me vois bien à l'accueil pour protéger les serviteurs de Dieu, pour mettre de l'ordre, parce que tu te sens fort physiquement. Est-ce que Dieu a dit ça? Peut-être que tu es appelé à prier plutôt, à l'intercession. Mais tu te dis, l'intercession c'est pour les femmes. Mais qui a écrit ça? Bien-aimé, ce que tu considères comme force, c'est ça qui va te tuer. Tu dois considérer toutes ces choses comme pertes. C'est très très important. Le Seigneur sait utiliser les gens faibles. Et il ne cherche que ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je me réjouis de mes faiblesses désormais. Parce que c'est dans la faiblesse que Dieu se manifeste. Désormais, lorsqu'on se sent faible, c'est là que Dieu agit plus que lorsqu'on se sent fort, parce qu'on risquerait de se donner à soi-même gloire. Donc commence par considérer tout ce que tu peux énumérer, de spirituel, de physique, d'acquis, d'expérience, tout ce que tu peux énumérer comme dans ton identité, commence par considérer cela comme étant des obstacles. Accepte d'être rien du tout pour que Dieu s'exprime totalement en toi. Amen. Dernièrement, j'ai été en Belgique et puis je devais faire les courses le samedi matin. Mais là où on devait faire des courses, il y avait une queue et il y a deux personnes, une personne qui est passée, une femme qui est passée devant nous, et puis deux femmes, et puis un homme. Bon, c'était comme, c'était un peu confus. Bon, je me disais, mais je ne vais pas commencer à me disputer ici. Bon, j'ai laissé passer. À un moment, la première femme qui nous avait dépassé, elle se dit, mais non, ce monsieur-là, on était à deux, ce monsieur était avant nous tous. Il faut les laisser. Monsieur, vous êtes avant nous. Il faut passer. Et les autres qui étaient même après elle ont commencé à protester. Alors, il faut savoir que depuis le matin, par rapport à un événement que j'avais suivi la veille, la nuit, le Seigneur m'avait dit, attention, tu commences à te fâcher. Tu commences à réagir humainement. Pourquoi ? Parce que j'avais vu plusieurs infos, on en a parlé le mardi passé aussi, je crois, plusieurs informations qui montrent comment les enfants en France, en Europe sont négligés. Les enfants sont considérés aujourd'hui comme des fardeaux. Il y a même en Belgique un endroit où on peut passer des vacances, mais il faut être sans enfant. Donc les enfants sont considérés aujourd'hui comme des fardeaux. J'avais envie de prendre une arme et de tirer sur ces gens-là. Et je disais, mais c'est pas possible. Les enfants n'ont pas demandé à naître. Aujourd'hui, les enfants sont considérés comme des fardeaux, des gens qui empêchent les autres de vivre. Et on les oublie dans la campagne, on les oublie dans les voitures. Donc j'étais en colère par rapport à tout ça. Il y a des parents qui divorcent facilement, et sachant que les enfants vont souffrir. Donc ils sont là à viser leurs intérêts personnels. Et après, ils sont déçus avec les gens qu'ils prennent à gauche, à droite. J'étais en colère par rapport à cette affaire. Ça fait des jours, ça fait 3 semaines environ que je suis en train de méditer ça. Et je suis en colère. Et ma colère commençait à dépasser celle de Dieu et à entrer dans un rayon humain. Et le Seigneur m'avait dit, il faut te confier en moi. Bien-aimé, même si un souci est valable, on ne doit pas prendre le souci plus que Dieu lui-même. On risque de déborder. Même si le souci est valable. Et donc, le Seigneur m'avait prévenu le matin, si tu as eu ce songe-là la nuit, c'est parce que tu commences à réagir physiquement. Calme-toi. Calme-toi. Et au moment où cette femme-là a réveillé la situation, puisque la situation était là, mais j'ai laissé faire que finalement il y a des gens qui sont passés. Un monsieur encore était passé. J'ai dit, bon, je vais calmer tout le monde là. Et le Saint-Esprit m'a rappelé le songe. Oui, je t'avais prévenu de ne pas intervenir. Mais dans mon cœur, je me suis dit, mais Seigneur, on ne va pas se laisser dépasser par tout le monde quand même. Et puis, une voix m'a dit, le Seigneur sait défendre les gens. Ah, je me suis calmé. Bien-aimé, la femme qui avait pris la parole, quand j'ai fini, la voix m'a dit, le Seigneur sait défendre les gens. La femme a pris encore la parole. Elle s'est disputée avec tout le monde qui était avant nous pour que nous, on puisse faire les courses avant. Et on a fait avant. Elle a dit, monsieur, allez-y. On a fait tout ce qu'il fallait. On est parti. Je me suis dit, c'est vrai. Quand le Seigneur dit « garde silence », c'est la vérité. Pourtant, physiquement, les gens qui étaient là ne faisaient pas le poids. Mais le Seigneur te dit « ta force physique est une faiblesse. Laisse-la. Elle va t'amener à ta perte. » Même dans des situations qui paraissent que tu es fort, attention. Attention, certains sont morts comme ça. Le petit que tu vas taper, il avait une arme. Toi, tu comptais sur la force physique, mais lui, avec son arme, il neutralise en une seconde tous tes muscles. Bien-aimé, c'est la réalité. Il faut compter sur Dieu. Il faut compter sur Dieu. Même quand on pense être fort, Il faut compter sur Dieu. Il y a des gens qui ne prient plus même avant de manger pour remercier le Seigneur. Ils trouvent ça évident de manger. Bien aimé, ce n'est pas évident de manger. Ce n'est pas évident. C'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Il y a des gens dans le même pays dans lequel nous sommes. À un moment, ils avaient du mal à manger. Bien aimé, nous avons des livres. Quand nous avons, quand nous étions au lycée, nous étions au collège, on a lu des livres. Des écrivains, par rapport à la vie des Français d'un certain temps. Il y a certains qui mangeaient que le pain et le fromage, toute la journée. Donc, manger aujourd'hui n'est pas une évidence. C'est un cadeau, bien-aimé. Et quand on se sent fort, on oublie ces choses-là. On a l'impression qu'on les a tout le temps. On ne les aura pas tout le temps. L'essence n'était pas compliqué comme ça il y avait 3 ans. Aujourd'hui, ça devient compliqué. Même le gazole. La vie peut changer d'un instant à l'autre. Qui aurait pu croire qu'un jour la Russie se battrait encore? Qui aurait pu croire que ça? On se disait, elle est maîtrisée, non? Elle est maîtrisée. Ah non, on est toujours en danger. La guerre n'est pas finie. Ça peut commencer d'un instant à l'autre. Alors quand on a des choses, remercions le Seigneur. Rendons grâce, bien-aimés. C'est la réalité. Notre force constitue notre faiblesse. Mais notre faiblesse dans le Seigneur constitue notre force. C'est ça la Bible, bien-aimés. Maintenant, quelqu'un peut me poser la question, quand est-ce qu'on peut savoir que là, on est en train de dépasser les frontières? Commencer à défendre notre identité plutôt que Dieu, parce qu'il y a des bonnes causes aussi. Il y a des bonnes causes. Par exemple, évangéliser, c'est une bonne cause. Prêcher, c'est une bonne cause. Dire la vérité, c'est une bonne cause. Manger, c'est une bonne cause. Défendre la vérité, c'est une bonne cause. Mais quand est-ce qu'on va prendre la place de Dieu? La Bible dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Défendre les enfants, ce qui était dans mon cœur, c'était une bonne cause. Mais ça a commencé à produire quoi? L'énervement et une faiblesse charnelle où tu commences... À cause de cette histoire-là, certains peuvent prendre ça, peuvent ne pas comprendre ça. Ben, moi, je suis comme ça, je suis sensible par rapport aux difficultés des faibles. Eh ben, à cause de ça, j'ai commencé à devenir irrité toute la journée quand j'ai pensé aux enfants qui sont maltraités. Et donc, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc forcément, il y a une part de moi qui avait pris le dessus sur l'irritation normale qui devait venir du Saint-Esprit. Donc j'ai voulu défendre la cause par moi-même. Et quand on veut défendre la cause par soi-même, que ça produit quoi? La colère, l'énervement. On sent que tu n'es plus bien. On sent que tu es irrité et tu es prêt à faire des folies. Parce que tu es irrité. Lorsqu'on est irrité, souvent... ça cache le fait qu'on est sorti de la faiblesse pour entrer dans la force personnelle. Et quand on entre dans la force personnelle, quand ça ne marche pas, on s'énerve contre les gens qui ne suivent pas. On s'énerve parce qu'on ne se sent pas suivi, on ne se sent pas écouté. Parce que là, maintenant, on est dans la défense personnelle. On défend son identité. On ne défend plus la cause du Seigneur. Jésus-Christ ne s'est pas énervé. Il a dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils savent pas ce qu'elles font. Parce qu'il était dans la défense de la cause du Seigneur. Il savait qu'il mourait pour sauver les gens. Comment peut-il s'énerver encore? Puisqu'il mourait pour sauver les autres. C'est ça le problème. Je suis chrétien pour que les autres soient sauvés. Comment encore commencer à m'énerver? Même s'ils font le mal. Je dois rester en paix et rechercher Dieu dans la prière. C'est vrai que de temps à autre, je disais, Seigneur, si tu peux moindre pour que je cause des gros dégâts aux affaires du diable, ça serait le bienvenu, quoi. Mais il faut rester dans cette prière-là. Il ne faut pas commencer à s'énerver sur les hommes, parce que les hommes ont besoin du salut. C'est important, bien-aimé. Comment savoir que nous commençons à sortir lorsqu'on s'épuise? Lorsqu'on s'épuise, c'est la preuve que on commence à sortir de la voie de Dieu. On est épuisé. On a parlé et on est épuisé. Et souvent, ça énerve. Donc, ça veut dire qu'on est en train de sortir de la voix de Dieu. Puisque la chose même que Dieu nous a confiée comme projet commence à devenir un fardeau. On est sorti de la voie de Dieu. Lorsque les enfants deviennent un fardeau, ça veut dire quelque part, nous sommes sortis de la volonté de Dieu. Il y a quelque chose qu'on a loupé. C'est ce qui fait que ce qui est de Dieu commence à devenir un fardeau. Quelque part, on commence à agir par la chair. C'est ça la démonstration. Il y a un autre point, c'est l'incrédulité. À un certain moment, on ne croit plus au changement. On ne croit plus à la transformation. En réalité, parce qu'on a commencé à réagir par la chair. On veut des signaux humains. On veut des signes humains pour réaliser que Dieu est là. On entre dans la chair. Et tous ces détails-là nous empêchent. Ce sont des témoignages plutôt que nous sommes sortis de la volonté de Dieu. Nous devons revenir dans l'humiliation. Et quand nous allons prier, le Seigneur va nous parler, va dire, tranquillise-toi. Jésus-Christ est mort à la croix pour cela. Tranquillise-toi. Prie seulement, je vais agir. Prie. Peut-être il ne va pas te parler le premier mois, mais peut-être 5 mois après, il va te dire, bon, puisque tu attends ce souci-là, pour les enfants, voilà ce que je vais faire avec toi. Puisque tu attends ce souci-là pour la France, voilà ce que je vais faire avec toi. Laissons exprimer nos soucis, nos pleurs à travers les prières, mais ne nous rebellons pas devant Dieu. Ne cherchons pas à faire par nos propres forces. On va s'épuiser et on va tomber dans l'incrédulité puisqu'on ne voit rien bouger. Dieu veut s'exprimer, bien-aimé, à travers nous et non être notre entraîneur, notre coach. Quand on voit Raymond Domenech, ce n'est pas lui qui joue dans le terrain. Il explique aux autres comment devenir fort pour bien jouer. Mais ça, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est lui qui va jouer à travers toi. Donc toi, tu ne prêtes que tes muscles, tu prêtes tes yeux, et lui, il entre en toi, il commence à jouer. Ça, c'est Dieu. Il entre en toi. Et c'est ce qu'il veut faire. Il veut s'exprimer en toi, mais tu vas le gêner si toi, tu te crois fort et tu penses t'exprimer par toi-même. Il ne veut pas être notre entraîneur, mais il veut être en nous. Et agir, s'exprimer à travers nous, que nous soyons son expression. C'est pourquoi un vrai chrétien reviendra à la prière. Il priera beaucoup parce que dans la prière, c'est là que Dieu s'exprime. Dans la prière, c'est là qu'on reconnaît qu'on est faible, on a échoué, on est incapable. Seul Dieu peut agir. Un vrai chrétien priera beaucoup parce que la force de Dieu ne s'obtient que par la prière. C'est par la prière que le Seigneur agit. Un vrai chrétien ne passera pas son temps à forcer les autres à accepter des choses, à forcer les autres à aller dans son sens. Il passera son temps à prier. Malgré les déceptions, il priera parce qu'il sait que Dieu peut changer le mal en bien. Comme ce fut le cas pour Joseph, un vrai chrétien va prier parce que la prière est puissante. La prière est agissante. Bien-aimés, si nous sortons de cette logique-là d'identité, la pression sur nous va baisser et disparaître. On sera des hommes libres. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » Laissons le Seigneur s'exprimer à travers nous. Même pour des bonnes causes, lorsque nous sommes arrivés à la fin, laissons-le s'exprimer, cherchons. Prions pour qu'il s'exprime, pour qu'il dise qu'est-ce que nous devons faire. C'est important. C'est ce que Dieu veut faire. Ne nous accrochons pas à notre identité. Ne défendons pas ce que nous sommes. Ne défendons pas nos projets. Défendons notre amour pour Dieu. Cherchons la communion avec Dieu. Afin que la gloire revienne à une seule personne. À notre Père qui est aux cieux. Qui nous a tant aimés qu'il a donné Jésus. Afin que nous puissions vivre éternellement. Et Jésus nous a montré l'exemple. Il s'est laissé faire afin de produire beaucoup plus de résultats. Il s'est laissé crucifier. Suivons son exemple. Acceptons que notre identité meure et que la personnalité de Jésus-Christ vive. Acceptons les échecs. C'est fait exprès pour que la personnalité de Jésus-Christ vive. Tirons les bonnes leçons de cela. Que Dieu nous bénisse. Amen.